Alors, on aborde cette troisième séance consacrée, vous le savez, à la représentation animale dans l'art occidental. On a passé deux premières séances à évoquer deux animaux, le chien puis le singe, des animaux qui sont importants sur le plan, je dirais, symbolique, hein, et dont on a pu voir, en les regardant un peu sur toutes les coutures, qu'ils pouvaient exprimer beaucoup de choses différentes. J'ai voulu changer un peu avec cette troisième séance. Je crois qu'on a un peu compris quels étaient les mécanismes de symbolisation des animaux dans l'art. Et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer de regarder quatre cycles artistiques réalisés en France, à la Renaissance, au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Des cycles artistiques dans lesquels les animaux ont une part importante, si ce n'est quelquefois absolument majoritaire. Et j'aimerais un peu que nous regardions ces cycles-là, de voir comment ils fonctionnent, comment les animaux s'y inscrivent. Bref, on va regarder, un peu différemment de la fois dernière, décidément comment l'animal s'instille dans l'œuvre d'art, et là, dans des cycles artistiques, quelquefois, d'ailleurs, vous allez le voir, assez abondants. Alors, je vous propose qu'on aborde un premier cycle artistique, qui appartient à l'époque de la Renaissance. Ça va nous faire aller à la fois en France et un petit peu en Italie, vous allez voir. Et on commence par quelques œuvres. Alors, je vais vous les montrer d'abord. En l'occurrence, je vais vous montrer 6 œuvres. Et après, ben, on va en discuter. Donc, je vous montre les 6 œuvres. Je vous les remontre une deuxième fois. On repart en arrière. Est-ce que vous voulez les revoir ou est-ce que c'est bien ? Oui ? Alors, on va les voir deux autres fois pour qu'on puisse faire les retours. Bien. Alors, vous avez vu 4 fois ces œuvres, de quoi vraiment vous abreuver d'elles, et pouvoir me dire maintenant de quoi il s'agit et quel est le rôle de l'animal dans ces œuvres-là. D'abord, ces œuvres, ces 6 œuvres que je vous ai montrées, ben voilà, qu'est-ce que vous auriez à en dire ? Allez-y, la parole est à vous.
C'est toujours des animaux qui tirent un chat.
Alors, effectivement, chacune de ces 6 œuvres montre des animaux tirant un char. Alors, c'est l'époque de carnaval, j'ai pensé que c'était vraiment...
Alors là, ils sont attachés dessus.
Quel opportuniste.
Ah oui, tout est toujours très réfléchi. Bien. Alors, oui, pardon.
Au-dessus, ils sont attachés.
Alors, dans cette œuvre-là, vous voulez dire, hein, au-dessus de quoi ? Vous savez, moi, il faut tout me dire.
Sur le char.
Sur le char. Donc, au-dessus du char, oui.
Ah, les personnages.
Les personnages sont attachés. OK.
Les choses aussi.
Alors, peut-être avant de regarder cette œuvre-là, est-ce que vous voyez un lien entre les 6 œuvres que je viens de vous montrer ? Vous avez dit que le lien, c'était qu'à chaque fois, ça représenterait un char tiré par des animaux. OK. Mais au-delà de ça, avant de regarder un peu plus avant, effectivement, chacune de ces œuvres, là, vous venez d'évoquer les personnages attachés sur le char dans cette œuvre-là. Est-ce que vous auriez pas d'autres choses à dire qui mettraient ces 6 œuvres en cohérence ?
Ce sont des scènes soit mythologiques, soit d'histoire.
Enfin, donc ce seraient des scènes mythologiques ou historiques, pardon ?
Fantastiques.
Fantastiques.
Des animaux fantastiques.
Est-ce que quand vous parlez de scènes mythologiques et autres, vous avez dans les 6 œuvres que je vous ai montrées des éléments très tangibles, des scènes mythologiques précises qui vous apparaissent?
Les personnages
personnage volant et curieux.
Mmh. Oui.
Il y en a un, c'était
alors,
la mort.
Si vous... Pardon.
Il y en a un, c'était la mort. Mmh.
Alors, il y a un des personnes, ouais. une des figures, effectivement, qui était la mort. Alors, on va peut-être commencer, si vous voulez, par les regarder toutes d'un peu plus avant. Donc, dans cette œuvre-là, qui est quoi, techniquement ? Je vous rappelle à nos petits fondamentaux.
Sur bois ?
C'est une peinture sur bois, ok. Donc, sur cette peinture sur bois, sur ce panneau, qu'est-ce que vous voyez précisément ? Sans aller dans le détail, hein, globalement, vous voyez quoi ?
Un paysage.
Un paysage, effectivement. Quatre chevaux. Renaissance oblige, n'est-ce pas ?
Un char tiré par quatre chevaux.
Un char tiré par quatre chevaux, oui.
Et des personnages.
Trois personnages et puis des personnages. Bon.
Des personnages autour.
Mais ceux des symboles, je n'en sais pas ce qu'ils présentent.
On dirait qu'il y a du feu
sur sa tête. Ouais. Il y a du feu, oui.
Alors. Oui, il y a donc un personnage qui vole, qui a l'air un peu incandescent.
Il a un arc et des flèches.
Pardon ? Alors ça peut être Apollon, parce qu'Apollon, effectivement, a un arc et des flèches, ou du moins peut en avoir, mais ça peut être quelqu'un d'autre.
Il est ailé.
Pardon ?
Il est ailé.
Il est ailé, oui. Apollon est ailé ?
Non. C'est Mercure ou Hermès.
Mercure. Alors, Mercure, il est vraiment ailé aussi. Pardon, voilà, c'est plutôt au niveau des talons hein, et au niveau du pétase, le chapeau qu'il a sur la tête. Hein. Donc là, le personnage est évidemment ailé de vraies ailes. Il a un arc et des flèches. Pardon, Eros, c'est-à-dire, il faut tout me dire, hein, moi, si vous ne voulez pas comprendre, le dieu de l'amour. Donc c'est sans doute Eros, le dieu de l'amour, ok. Donc c'est Eros qui est au-dessus. Et puis en dessous, qu'est-ce que vous voyez ? Donc vous disiez trois personnages attachés.
Au milieu, il y a du feu, non ?
Il y a quelque chose qui semble assez incandescent, effectivement, au milieu, oui.
Il y a des coups.
Il y a une femme et deux hommes.
Oui, il a une armure.
Il y a un homme qui a une armure. Un guerrier. Quoi d'autre ?
On dirait qu'il y a quatre statues tout autour du char.
Il y a quatre statues tout autour du char. Alors, peut-être continuons à regarder les trois personnages. Vous avez commencé par eux. Vous avez dit qu'il y avait un guerrier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Celui du milieu représente pas bien quoi. Avec ses parties noires qui est devant.
Ben c'est ça, son manteau. Il a un manteau noir sur une robe rose.
À côté, c'est une fille.
Alors, il y a effectivement à droite une femme, je ne sais pas s'il y a des filles, hein. Enfin, il y a une femme, un guerrier, et puis au milieu,
un
homme plutôt âgé, effectivement, il y a une grande barbe, celle des... Pardon ? Alors, peut-être des amoureux, oui. Et pourquoi ?
Pardon ? Ils ne sont pas des prisonniers ?
Alors, ils sont effectivement captifs. Ils sont liés, ils ont les mains attachées dans le dos. Mais pourquoi ?
Pour aller au supplice.
Pour aller au supplice. Et pour au supplice de quoi ? Pourquoi au supplice ?
Je
ne
sais pas, peut-être une scène d'adultère ou un truc comme ça.
Ah, une scène d'adultère, peut-être.
Je ne sais pas.
Peut-être.
Donc
ça, c'est une solution. Est-ce que vous voyez d'autres solutions ? Ces personnages attachés.
Ils sont condamnés à quelque chose ?
Oui, condamnés. Donc ça reviendrait effectivement à ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire... des personnages attachés, peut-être une scène d'adultère, et donc on les condamne. On condamne les trois, hein,
oui,
carrément. Hein.
C'est illogique. Dans une scène d'adultère, le mari n'est pas condamné.
Normalement, non, mais...
Sauf si c'est lui qui
condamne. Il peut être condamnable aussi.
Bah, s'il y a deux...
Donc, quelle peut être l'autre solution ?
Symbolique.
C'est-à-dire ?
Ah bah alors.
Quand vous dites des choses que vous ne savez pas.
Il y a
beaucoup
de spectateurs.
Beaucoup de spectateurs qui n'ont pas l'air très inquiets, effectivement. Il y a du monde autour, ça discute. Voilà, oui, c'est effectivement, on n'a pas l'impression de quelque chose de très dramatique. Et cette réflexion-là vous évoquerait quoi ?
Sa vie pour être marié avec l'autre.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a le père qui veut marier sa fille avec le guerrier,
mais ils sont tous attachés.
C'est un mariage arrangé.
Un mariage arrangé, tellement arrangé qu'ils sont tous prisonniers. Ah ben, mariez vos enfants, tiens. Et tout ça autour de gens qui regardent ça, qui ont rien, c'est détaché. Ouais, c'est vrai qu'on les emmène au supplice, rien de plus amusant. Hein.
Et les quatre statues dorées qui sont à l'angle du plateau.
Oui.
C'est dégardé.
C'est grandiose. Il y a des anges.
Parce que c'est...
Ils ont des ailes.
Hein. Bah, c'est, oui, ce sont des personnages ailés qui chacun tiennent une sorte de hampe. Hein.
Ils ont quoi ? Ça peut être trop sérieux.
Il est statique, ce char, ou alors il va...
Oh ben les chevaux ont l'air de le tirer. Hein. Donc c'est vraiment un char. Ah oui, ben, c'est une manière de montrer une sorte de dynamisme des chevaux, quoi, qui sont fougueux, hein, qui emmènent le char.
Oui, mais ça
le mouvement d'un vrai cheval.
On est à quelle époque ?
La Renaissance.
C'est donc de la Renaissance, à un moment où, d'abord, la photographie n'a pas permis de se rendre compte de comment fonctionne le monde d'un vrai cheval. Ce n'est pas évident. Avec l'art de la photographie et la façon qu'elle a de saccader le mouvement, les artistes ont pu voir comment ça fonctionnait réellement. Donc effectivement, vous avez raison, il y a là une sorte de convention hein, pour montrer le galop du cheval. Et puis plus intéressant, ce n'est pas forcément donné dans le réalisme. Hein. Et vous l'avez vu, hein, ce cadrige-là n'a pas... D'ailleurs, de toute façon, je ne suis pas sûr que le cadre le soit tout autant. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'allégorie ou de symbole, c'est donc pas la réalité. Hein. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça représente quelque chose de réaliste. Alors vous disiez, ce sont trois personnes qui vont au supplice, et tout ça, ça veut dire des gens qui seront très goguenards et qui vont pour l'heure être très affectés parce qu'on va soit brûler, soit couper la tête de ces trois personnes. Des gens normaux feraient quand même de tête, si vous voulez. Hein. Là, visiblement, je ne suis pas sûr que le réalisme soit le résultat qu'il faut trouver dans une telle œuvre.
Ou bien c'est une célébration, en fait, il simule quelque chose, non ?
C'est une célébration de quoi ?
Ben, je ne sais pas non plus.
Alors, si je vous montre une deuxième œuvre, est-ce que ça va permettre d'y voir plus clair ?
Ça, c'est une enluminure.
Ça, c'est une enluminure, très bien.
C'est des chevaux ou des licornes ?
Non, c'est des licornes.
Il y a effectivement des licornes qui font quoi ?
Elles tirent un char.
Et dessus, il y a un personnage nu attaché. C'est moi, ils sont tous attachés. Encore un problème au supplice, j'imagine.
Non,
ah non. Là, il n'y a plus de supplice, alors. Non, c'est
les justes captifs.
Ils étaient captifs dans la diapositive précédente.
Ouais, c'est peut-être la symbolique du mariage. Parce que
dans
l'autre.
Donc c'est un mariage à trois.
Non,
c'est ils étaient trois captifs. Hein.
Ils étaient en plus assis sur une sorte de parchemin. Donc peut-être que c'était celui officiant.
Oui, c'est une sorte de siège, si vous voulez, voilà. Bon, mais revenons peut-être au deuxième, peut-être nous permettre de décoincer un peu le premier.
Pas vraiment.
Non. Bon, mais qu'est-ce qu'on dit ? Donc, vous avez dit, je résume un peu, hein,
oui.
Qu'il y a un char tiré par deux licornes, que sur ce char, il y a un personnage nu attaché. Vous ne m'avez pas dit ce qui se passait par ailleurs. Il y a une autre personne au-dessus, une femme.
Qu'est-ce qu'elle tient ?
Il y a que des femmes autour. Vivant, ici et là, le tout dans un paysage.
Mais qu'est-ce qu'elle fait au-dessus ? Qu'est-ce qu'elle fait au-dessus ?
C'est un juge.
Mais la licorne, c'est la pureté.
Pardon ?
La licorne, elle avait un sens. C'était
c'est la pureté, normalement.
La oui. virginité.
C'est ça, la licorne, c'est la virginité, la pureté, voilà. Absolument.
Donc, il y a
donc il y a, peut-être un rapport avec ce que vous voyez.
Ben oui, avec la jeune femme. Enfin, je ne sais pas si c'est une jeune femme qui assiste nue.
Non, c'est
ça n'a pas l'air d'être vraiment une jeune femme.
C'est plutôt un homme.
C'est plutôt un homme. Donc vous avez un homme nu attaché.
C'est le seul
homme. C'est le seul, effectivement.
Les femmes ne sont pas très joyeuses, en particulier la première à gauche, là, elle a pas l'air...
Oui, c'est ça, elles sont ni joyeuses ni pas joyeuses, c'est une sorte de, comment dire, elles sont là, un peu comme dans le tableau précédent d'ailleurs. Hein. On assiste à la scène, on l'accompagne, on n'est ni rigolarde ni atterrée, on accompagne le chat.
Qu'est-ce qu'elle tient? Ça peut être la symbolique de la nature.
Vous savez, de la nature.
Oui, du printemps.
Vous savez, du printemps.
Mais de l'amour.
On sacrifie la bonne
âme. Ah, de l'amour.
Non, mais non, parce que la fin du printemps, l'autre, c'est Cavache, là.
Donc, l'autre, il y avait un amour dessus, mais là.
Là, il
n'y
en a pas.
Là, il n'y en a pas. Et ce serait une symbolique de l'amour, alors.
Non, de la nature.
Ah, de la nature. Donc, on aurait un premier char avec une symbolique de l'amour. Avec un couple à trois qui marche au supplice. Moi, je ne fais que dire ce que vous allez dire.
C'est l'amour
malheureux. Et là, on a la nature avec un monsieur tout nu et attaché. C'est vrai que les messieurs sont toujours nus dans la nature. Et des femmes très habillées. C'est le propre des femmes dans la nature.
Et qu'est-ce qu'elle fait en hauteur comme ça?
Oui, qu'est-ce qu'elle a
la main?
Est-ce qu'elle
tient? On dirait qu'elle
n'a pas plus. C'est un âge. Non, donc j'ai un bâton, c'est un sacré bâton. Hein. C'est une
colonne.
Elle tient une colonne. Pourquoi est-ce qu'elle tient une colonne?
Parce qu'elle est grosse. Je
doute. Autrement dit, cette femme, c'est une femme qui a.
Du pouvoir.
Voilà, c'est une importance. Autrement, elle tiendrait un petit. Petit bâton cassé, hein. C'est une colonne, hein. Une colonne, ça tient quoi?
Un temple,
un bâtiment. Hein. Une colonne, c'est du solide. Hein. Donc on n'a pas là une gisquette avec un iPhone. Hein. On a là une femme qui tient une colonne. Hein. Là, il doit y avoir quelque chose.
La colonne ne la dépasse pas.
Oui, bah écoutez, c'est déjà pas mal.
Elle tient pas autre chose.
Même si elle fait ça, elle dépasse pas.
Elle a autre chose.
Elle a de blanc.
Elle a son blanc.
Ah, on dirait une plume.
À quel endroit vous voyez un truc blanc?
Dans la main, dans sa main droite.
C'est pas son main
Ici? Non, c'est la manche.
Non, au-dessus.
En diagonale.
Et dans la main gauche, elle tient quoi?
Ça? Non, je suis pas sûr que ce soit un
attribut. Qu'est-ce qu'elle a dans la main gauche?
On voit mal. Là, elle a une sorte d'écu de blade.
Un blason? Un
crapaud?
Bouclier,
merci. Et voilà, et donc il tient bouclier là et colonne là. Vous voyez, elle tient cette colonne et elle la défend. Hein. C'est pas une minette. Hein. Donc la nature.
Non.
Alors on va peut-être regarder la troisième diapo pour avancer un peu.
Je ne sais pas si
on va avancer. Je ne
suis
pas
sûr d'en avancer.
Alors là, on nous le disait déjà tout à l'heure, hein, effectivement, c'est la représentation de la mort.
La mort pour tout le monde.
Pardon, la mort pour tout le monde, absolument. Pourquoi vous dites ça d'ailleurs?
Ils sont tous morts.
Voilà, on voit effectivement par terre des gens qui se font écraser par le char, hein, et vous disiez par tout le monde, effectivement, il y a toutes sortes de gens, il y a même un évêque. Hein, donc la mort n'épargne personne. Ok.
C'est là, oui.
Pardon.
Peut-être
alors là, on aurait la mort, et avant, on aurait quoi?
Eh bien, comme elle est forte,
la naissance,
ouais. L'âge adulte, quoi.
Ok, et puis le premier, ce serait des bébés.
Non, elle est allée nous le montrer.
Les bébés vont arriver. C'est pas dans l'ordre, mais.
Ouais, c'est pas dans l'ordre.
Parce que je tiens à vous dire que je vous les ai mis dans l'ordre, les diapos.
Ah bon?
Ouais.
Ah,
ouais. Bon, c'est pas mon genre, je sais. Mais là.
Déjà, on est à l'ordre. L'ordre,
c'est quoi?
Ah ben, disons qu'elles sont dans l'ordre de la signification de ce cycle. D'ailleurs, vous allez tout de suite le comprendre en voyant la quatrième.
La 4.
Oui.
La 4.
Ah ben non,
c'est la 4.
Non, mais c'était pas Nicolas qui le tenait, c'était une trompette.
Une espèce de colonne.
Alors, oui, qu'est-ce que vous voyez là? Alors, une sorte d'armée. Là, alors là, effectivement, hein, on a tout autour des personnages nombreux. On avait tout à l'heure des femmes là. La photo n'est pas très claire. Hein. Là, ce sont plutôt des hommes.
Il y a un ange aussi là-dedans, non?
Mené par une sorte d'ange féminin. Vous voyez cette femme? On voit la mort. Elle est où?
Devant l'ange.
Elle est devant. Elle est devant. Elle est quoi? Elle est en train de s'amuser, non?
Elle est assise.
Et elle est enchaînée. Tiens, encore une. Mais cela fait partie du couple du départ. En fait, ce n'est pas un ménage à trois, c'est un ménage à 4-5. On en a déjà vu des enchaînés avant.
Ah non, mais c'est que la foi.
Ah ben c'est l'ange qui.
La foi, la religion est supérieure à la mort.
Voilà, l'ange
est. Donc c'est la religion qui est supérieure à la mort. Donc ça, c'est la religion.
C'est le symbole de la.
C'est la résurrection.
La résurrection.
La résurrection.
Non, Jésus qui triomphe. Non, mais c'est la religion qui triomphe.
C'est la religion qui triomphe.
C'est la religion qui triomphe.
Et pourquoi il y a des éléphants?
Pourquoi
il y a des éléphants?
Alors pourquoi il y a des éléphants?
Parce que c'est ça qui est pratique.
Oui. Pourquoi il y a des éléphants? Bonne question.
Ils sont tout petits.
Pardon? C'est eux qui tirent le char. Hein, parce que vous avez des cavaliers, et on voit là un, etc. Et on en a plein partout. Et entre ces cavaliers, vous avez un char tiré par des éléphants. Sur le char, il y a cette figure que vous voyez là. Et, à côté, et devant, il y a la mort assise et enchaînée.
C'est des éléphantaux.
Oui, c'est des éléphantaux.
C'est un retour semi-glorieux du combat, non?
Une sorte de triomphe après le combat.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Oh, bah, oui, il y avait un ménage à trois qui a gagné le combat, sans doute, et puis la dame avec la colonne, elle a détruit un temple, alors elle est mise, parce que c'est bien ramené à son
livre. Qu'est-ce qu'il y a dans la
colonne? Je vous montre la suivante. Alors, je vous montre la suivante.
La 5.
Alors, on voit un chat tiré par deux selles, effectivement.
Au-dessus, il y a des animaux.
C'est la chasse.
Au-dessus, il y a effectivement
des cadrans solaires,
des animaux.
C'est un cadran.
Il y a un cadran, oui.
Zodiac, non?
C'est le zodiac, vraiment?
Tiens, avec des
soleils.
Pardon?
C'est un soleil.
C'est un soleil, mais pas que. Hein.
Non,
oui. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, c'est
l'horloge.
Une sorte d'horloge.
Et l'autre au-dessus, c'est qui?
La balance blanche a beaucoup vieilli.
Pardon?
C'est pas un ange au-dessus.
Je ne sais pas.
Il a beaucoup vieilli.
Ah, un personne, un ange. Un vieil ange au-dessus.
Il a une lanterne à la main.
C'est pas un coup.
Il a
une lanterne à la main.
Je ne suis pas sûr que ce soit une lanterne.
C'est pas un sablier.
C'est plutôt un sablier.
Donc
c'est le temps.
Le paysage maritime de cette photo est le même.
Il rappelle celui tout à l'heure. Donc on aurait là le temps. Ah ben là ça me paraît peut-être une piste intéressante. Hein.
C'est les âges de la vie.
Alors voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là ce serait. Le problème c'est qu'on a vu la mort. Donc là c'est après la mort. Bon, la mort c'est le début de notre vie.
C'est bien un taureau là qui vole.
Oui, un taureau qui vole. Bah, c'est normal. Je vois pas le problème.
C'est Harry Potter.
Non, c'est pas Harry Potter,
c'est bizarre. Les cerfs, hein.
Alors soudain, il regarde.
Il y a toujours des personnages autour, hein, qui regardent.
Est-ce qu'il y a une pierre en bas là?
Dans la première des photos, il y avait ce qu'on voit rarement dans les peintures, il y avait une femme qui était enceinte.
Oui, oui,
oui.
Devant le char, il y a des débris.
C'est vrai.
Oui, il y a des débris.
Des débris de papier.
C'est plutôt des éléments. Là, vous voyez un morceau de colonne, là aussi. Ça, c'est des éléments d'architrave, des morceaux d'architecture.
C'est pas un livre, c'est la vie.
C'est pour évoquer quoi?
La vie.
Oui.
La description des choses.
Pardon?
Le temps qui passe.
C'est ça, le temps qui passe. On construit des grands monuments, et puis trois siècles après, ils sont par terre. Donc il y a des morceaux de colonnes, ça. Quand on les a conçus, on s'est dit, oh, ben, ça c'est du solide, ça va durer, puis deux millénaires après, ils sont par terre. Donc c'est l'idée du temps. Chronos, le temps, est présenté avec une horloge, ça c'est assez normal, avec des éléments par terre qui sont là pour montrer effectivement l'usure du temps, le temps qui passe, qui met tout par terre, tout ce que l'homme construit.
Il y a pas un élément de jugement, la balance, ça fait comme une balance.
Ouais. Alors oui, il est effectivement sur une espèce de balance, de balancier. Ouais. Donc il y a peut-être, je ne m'explique pas trop ça, je n'ai pas lu quoi que ce soit concernant ça, mais on a un peu l'impression, effectivement, mais ce n'est pas vraiment une balance, mais ça fait penser au fléau d'une balance, effectivement. Donc là, on aurait effectivement ces thèmes-là. Avec le premier tableau que vous avez vu, hein, et vous aviez, semble-t-il, évoqué qu'il y avait l'amour, là on aurait le temps. J'ai l'impression que. Et puis la mort, quand même. Hein, c'est les trois qui, à mon avis, peut-être sortent du lot. Il y a deux serres, pourquoi?
Ça va, je ne sais pas.
Signe du zodiaque. Le cerf, c'est un signe du zodiaque. Pas trop, hein. Bon, le dernier va sans doute nous sortir de l'embarras.
Le chat
tiré par un
chien et un mouton.
Ils sont tous montés sur le chat.
Tout le monde est monté sur le chat.
Non, on dirait que
c'est
les évangélistes.
Parce
que
oui, c'est les évangélistes.
Ah,
oui. Il y a
l'aigle,
le taureau.
Et le lion.
On dirait peut-être
alors, effectivement, à l'avant de ce char, parce qu'il y a toujours un char, toujours traîné par des animaux, et là, les animaux, c'est le taureau, symbole de
Saint-Marc.
Le taureau, Luc. Le lion, symbole de Marc. L'aigle, symbole de Jean, et l'homme ailé, ou l'ange,
Mathieu.
Bien. Donc, évidemment, ce sont les symboles évangéliques, ce qu'on appelle le tétramant.
La lune et le soleil.
Ah, la lune et le soleil, oui, ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans quoi, par exemple.
Ah, et puis à la Trinité.
En haut, il y a la Trinité. En haut, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui tiennent.
Le monde, l'orbe.
Évidemment, entre le soleil et la lune, très souvent dans les représentations de la crucifixion au Moyen-Âge, on met le soleil et la lune, une manière de représenter, j'allais dire, la temporalité universelle.
Beaucoup de monde.
Embarqué, pape, cardinaux, évêques.
Ils ont leur nom dessus.
Oui, effectivement.
Il y a Saint Grégoire, le pape.
Ben, c'est les pères de l'Église. Bon, enfin, on voit mal, mais je ne serais pas surpris que ce soit les pères de l'Église.
Le pape en jaune, c'est
j'arrive pas à dire. Donc,
pas Grégoire.
Oui. Ben, Grégoire le Grand, je pense, c'est le père Augustin.
Les roues sont pas très rondes.
Non.
Non, mais bon, voilà.
Non, mais c'est un détail.
C'est une licence artistique. Bien. Mais revenons à nos moutons, ce chant bien qu'on essaie de ne pas aborder le vrai sujet, en regardant des roues pas rondes, je ne sais quoi. Quel est le sujet de ces six ans?
Religieux.
Un sujet religieux. Alors, un sujet religieux qui évoque quoi?
Manifestement,
le
christianisme.
Ça, c'est l'Église.
C'est l'Église,
d'accord. Mais les autres?
Les vis.
Les vis.
Ouais, nous en manque.
Donc le premier, ce serait la luxure.
La luxure, bien sûr.
Hein, oui, mais dans le faux 7, hein.
Pardon, et le zut, on accès.
Il y en a trois, là, c'est pas suffisant.
On a tellement de vis que.
On peut.
À Nice, ça suffit.
Trois vis.
Donc, finalement, je résume à peu près, on a vu six œuvres qui évoquent toutes le même cycle iconographique, même si elles appartiennent à des pays, Italie, France, et à des supports en luminure, tableau sur bois différents, c'est bien la même idée qui est représentée. J'aurais pu vous représenter tout d'après un manuscrit, je préférais un peu mélanger tout ça. Mais je vous les ai mis dans l'ordre. À chaque fois, on voit un char tiré par des animaux. On en a identifié certains, on a un peu vu ce qu'il en était. Il y a un char sur lequel on trouve l'amour, Eros. Un sur lequel on trouve la mort. Un sur lequel on trouve le temps. Il y en a, on a un peu pataugé. Il y a une figure avec une colonne. Pas trop. Il y en a une avec des ailes, une sorte de, d'ange femelle avec des ailes. Voilà. Et puis on a ça avec la Sainte Trinité. Bien. Quelle serait donc la logique, l'idée de tout ça? Quand vous allez voir le carnaval de Chalon, vous voyez ça, c'est clair, c'est réaliste. On est devant des scènes réalistes.
Non.
Ah non. Donc c'est pas réaliste.
C'est symbolique.
Donc c'est quoi?
C'est symbolique.
Symbolique, oui. Allégorique. Ce sont vraiment des scènes allégoriques. Voilà. Donc ce sont des scènes allégoriques. Mais ces scènes allégoriques, elles représentent quoi, chacune, d'une part? Et d'autre part, ensemble, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et pourquoi faire ça à cette époque-là? Je crois qu'on a eu un cours sur un avion sur la Renaissance. Et voilà, peut-être ça va nous être utile. Vous voyez qu'il y a une logique dans... Et voilà. Mais voilà, on n'a pas révisé ces ateliers sur la Renaissance.
Et voilà. Ça ne représente pas la réalité, voilà. On ne sait pas toujours ce qu'ils ont voulu dire.
Exactement. Il y a, dans les travaux de la Renaissance, souvent, une dimension d'avoir un peu de mystère,
d'ambiguïté.
On ne comprend pas toujours. Alors là, vous allez voir que finalement, c'est relativement explicite. Mais c'est très allégorique. La Renaissance adore l'allégorie. Sauf que là, vous allez voir, c'est des allégories finalement très simples.
C'est des allégories au deuxième degré, parce que c'est des œuvres différentes, de pays différents, que
oui.
Vous avez rassemblées.
C'est ça, mais donc j'aurais pu vous montrer toutes les mêmes d'un même manuscrit. Ou voilà.
Il y a votre allégorie avec.
Si j'ose dire, oui, voilà, oui, si on peut dire ça, oui. Mais j'aurais pu vous montrer toutes les pages d'un même manuscrit. Mais bon, pour varier un peu les plaisirs, j'ai choisi un peu dans divers supports pour montrer que ce cycle n'est pas un cycle représenté une fois par une personne sur un support, c'est quelque chose qu'on trouve volontiers dans plein d'occurrences et dans plusieurs pays d'Europe à l'époque. Donc, on a un cycle allégorique. Ce cycle allégorique, est-ce que vous arrivez à en voir la ligne rouge, qu'est-ce qu'il veut dire? Et à votre avis, quelle en est l'origine, d'où ça vient?
C'était l'époque où commençait le protestantisme. Alors, il y a
oui. Il y a quelque chose de protestant là-dedans?
Non.
Ah, non. Non.
Mais il y a une réaction de la part de l'Église pour...
Oui. La dimension religieuse vous paraît absolument l'unique, la seule partout dans les...
Non.
Pas forcément, je pense. Elle est présente, c'est pas notamment là, hein. Mais c'est peut-être pas, regardez par exemple le premier élément avec l'amour, le temps, oui. Je ne sais pas si l'élément religieux est vraiment le fil rouge absolu.
La condition humaine,
oui,
la destinée quand il subit.
Ouais. Donc on aurait finalement un cycle allégorique autour de l'idée d'une sorte de condition humaine.
Oui.
Alors.
Il y a une dynamique aussi avec les chars.
Oui.
Il y a six chars.
Oui.
Le salon de la voiture, ça.
Oui, à peu près. Avec à chaque fois des animaux singuliers, hein, qui tirent les chats. Donc les animaux veulent dire quelque chose par rapport à ce que le chat dit lui-même. Hein. Et alors, on va peut-être essayer maintenant de voir un petit peu plus près ce qu'il en est. Pétrarque, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Ben, pas l'impression quand même, parce que ce que vous aviez de voir, c'est Pétrarque.
Ah bon ?
Ah non ?
Donc, on bien.
Pas la métamorphose, ça c'est Ovid. Non, c'est Pétrarque. Pétrarque a écrit un livre qui s'appelle Les Triomphes. Et Les Triomphes de Pétrarque, et voilà une œuvre vraiment puissamment naissante, montre ce que vous disiez finalement, c'est-à-dire l'idée d'une sorte de destin humain, mais à travers des allégories qui évoquent un certain nombre d'éléments de la destinée humaine. Il appelle ça, plutôt que d'écrire la destinée humaine, c'est ça, il essaie de synthétiser la destinée humaine, avec un grand H, hein, autour de six chars qui sont autour de triomphes. Un triomphe, ça ne se fait pas à pied, au basket. Hein. Un triomphe, c'est quelque chose d'un peu monumental, sur un char qui avance, qui est par de beaux ennemis, avec une foule autour. Ça, c'est un triomphe, comme dans l'Antiquité. Hein. Dans l'Antiquité, quand un empereur entrait triomphant, c'est pas trois Pékin, etc. Il y avait des chars, et voilà. Donc c'est Pétrarque qui reprend cette idée antique, et il la transpose là-dedans. Et il essaie à travers six chars, six triomphes, d'évoquer la destinée avec une sorte d'évolution logique. En fait, le premier de ces triomphes, c'est le triomphe de l'amour. Ça, vous l'aviez à peu près vu. Ce que vous n'avez pas vu du tout, c'est que s'il y a trois personnages enchaînés, c'est que le jeune guerrier, la femme ou le vieillard sont tous concernés par l'amour et sont les prisonniers de l'amour. Tout le monde est prisonnier de l'amour. Personne. C'est pour ça que tout le monde est prisonnier. Ils sont tous les trois, hommes, femmes, vieux, jeunes, enchaînés à l'amour, parce que l'amour enchaîne tout le monde. On ne peut pas s'en sortir. Si vous voulez. Voilà. Donc ils sont enchaînés par l'amour, tout bêtement. Il y a l'amour au-dessus et des gens enchaînés par l'amour en dessous. C'est tout bête. Et tirant le char, vous avez quatre fougueux. Hein. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'ils avançaient. Hein. Voilà, ils avancent. Hein. L'amour pas une bricole, c'est un truc qui marche. Hein. Voilà, donc des chevaux qui avancent. Le char suivant, alors ça vous ne l'avez pas vu du tout, c'est celui de la chasteté.
C'est une
la chasteté.
Ah, à cause des licornes.
Alors, vous voyez, les licornes, ça, vous aviez vu que c'était évidemment la pureté, hein, etc. Hein. Donc, effectivement, la licorne, c'est ça. Vous retrouvez sur le char un homme nu enchaîné. C'est-à-dire cet homme qui est enchaîné par l'amour, là, il est, qui est prisonnier de l'amour, il est en même temps dominé, si vous voulez, par la chasteté. La chasteté domine l'amour, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la chasteté, ce n'est pas une petite bricole, un peu comme ça, c'est du solide, c'est un engagement, elle tient donc une colonne, la chasteté. C'est vraiment c'est un pilier, si vous voulez. Et donc, la chasteté domine l'amour. Un, il y avait l'amour, deux, la chasteté domine l'amour. Qu'est-ce qui va dominer la chasteté ? La mort. La mort, elle nivelle tout, de toute façon. Donc, c'est réglé. La mort, elle élimine toutes les des aventures humaines, la chasteté comme l'amour. Donc vous voyez la montée chromatique. Vous avez remarqué que la chasteté était donc tirée par des licornes, ça on l'a vu, que la mort est tirée par deux bœufs sombres, qui sont évidemment des animaux à fois lourds, octoniens. Voilà, l'idée est vraiment de plomber l'ambiance de la scène. Qu'est-ce qui va vaincre la mort ? Eh bien, la renommée. La figure que vous avez là, c'est la renommée. La renommée, c'est une femme avec des ailes. Il suffit de regarder les arcs de triomphe antiques pour le voir. Hein. Vous vous rappelez, on a déjà eu l'occasion, dans certaines séances, de voir des victoires. Les victoires, c'est la renommée, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire des figures féminines. Hein. En général, les anges sont unis. N'ont pas de sexe. Hein. Là, c'est vraiment clairement une femme. Une femme avec des ailes, c'est une victoire de Samothrace, hein. Autrement dit une renommée, c'est-à-dire une figure qui, avec sa trompette, elle a une trompe, hein, est en train de clamer à travers le monde quelque chose. Et la renommée, elle domine la mort, c'est pour ça qu'à ses pieds, il y a la mort qui est enchaînée, si vous voulez. Parce que au-delà de la mort, la renommée permet de toujours parler des gens, si vous voulez. Les gens peuvent mourir. La renommée est là pour assurer leur immortalité. La renommée, elle domine la mort. C'est montré devant vous. Il y a la renommée au-dessus de la mort. La renommée, elle domine la mort. C'est pour ça que c'est tiré par des éléphants. Parce que l'éléphant, c'est l'animal le plus costaud. L'éléphant, vraiment, là, il n'y a pas de problème. La renommée, elle va pas avoir un char tiré par deux biches ou deux escargots. La renommée est tirée par des éléphants, parce que ça tient le coup. La renommée, c'est... En plus, l'éléphant a une mémoire énorme. Donc, si vous voulez, la renommée, elle a des éléphants, parce que ça tient, ça soutient. Le problème, c'est que la renommée peut être malgré tout vaincue par le temps. Parce qu'on sait bien que la célébrité, mais si quelquefois elle continue sur des siècles et des millénaires, au bout d'un moment, elle s'use, si vous voulez. Et le temps use tout. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous remarquiez les éléments cassés au premier plan. Le temps, en fait, il va saper la renommée. On le voit bien, combien de gens très importants dans l'Égypte ancienne, dans la Rome antique, etc., sont aujourd'hui très méconnus, parce que le temps a fait son œuvre. Donc le temps, il sape la renommée, si vous voulez. C'est le triomphe du temps. Et puis enfin, qu'est-ce qui va vaincre le temps? Eh bien, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est quoi? Là, c'est la religion. La religion, elle n'est que là, si vous voulez. Le cycle n'est pas un cycle spécialement religieux. C'est un cycle qui amène vers la religion. C'est-à-dire que la vraie religion, elle est la solution de tout le reste, de notre petite condition humaine, où on essaie d'avoir des amours, ou bien non, on est vaincu par la mort, mais heureusement, il y a la renommée qui est là. Et puis finalement, puisque le temps fait tout passer, l'éternité est la solution. C'est la solution pour s'en sortir. Vous voyez qu'il y a fermé une suite extrêmement logique dans ces démonstrations de Pétrarque. Et Pétrarque montre ça donc d'une manière très allégorique, un peu mystérieuse, mais ça, c'est la Renaissance. Et vous avez vu comment à chaque fois les animaux, alors là, vous l'aviez vu, les animaux disent des choses sur le char qu'ils tirent. Ils ont un rôle. Ça, c'était le cycle artistique de la Renaissance. Je vois maintenant qu'on aborde le cycle artistique concernant le XVIIe siècle. Alors là, c'est pareil, je vais vous montrer une douzaine de diapos. Vous allez regarder. On va regarder une fois, deux fois. Et puis après, on va voir de quoi il peut s'agir. On y va? Ok, on revient en arrière.
Ils ont tous la gueule ouverte, sauf quand ils n'ont pas de gueule.
C'est là une bonne idée.
Pardon.
Ça fait penser aux animaux des fables.
Ça vous fait penser à des animaux de fables.
Avec le renard quand il veut attraper le fromage, ou celui avec les raisins.
Donc ça fait penser à des animaux de fables. Vous ne m'avez pas trop dit de quoi il s'agit. D'abord, des sculptures, oui.
D'animaux.
Toutes, oui.
Parfois polychromes.
On voit en tout cas des traces de polychromie, effectivement. Oui. De polychromie, que de polychromie?
Non.
Il n'y a que de la couleur, ces choses-là?
Non, non, non.
Il y a quoi d'autre? Alors, il y a la couleur de
la pierre,
de la pierre. Alors, c'est du bois ou de la pierre?
C'est de la pierre.
C'est de la pierre. Ben, justement, c'est aussi, je pose la question. C'est de la pierre. Bon, donc la couleur de la pierre et la pierre qui est peinte par moment.
Comme la crête du coq, là.
Comme la crête du coq. Okay. Donc on a des sculptures en pierre peintes partiellement. Okay.
Ça fait pas du
bois.
Il y a
des céramiques. Ah,
il faudrait les revoir un peu.
Oui, la vasque avec les français.
Vous voulez les revoir, c'est ça?
Oui, comme Mathieu a fait.
Vous voulez tout revoir?
Non,
on va les revoir.
Vous voulez. Donc, on a un ensemble de sculptures, toutes animalières, en...
Des petites bêtes.
Des petites bêtes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes animaux. Hein. Tiens, je pensais une chose. Je suis désolé, je reviens sur le. Je n'ai pas pensé à l'évoquer avec vous. Je reviens sur le thème. Pourquoi le temps avait un char qui était tiré par deux cerfs?
Ah oui, c'est vrai.
Parce qu'ils sont fidèles entre eux, les cerfs. Le mâle et la femelle.
Il y a de ça.
Mais c'était deux mâles, là, qui voient.
Le cerf, qu'est-ce qu'il peut évoquer dans le. La culture médiévale ou la Renaissance.
La chasse à cour.
Pardon ?
La chasse à cour.
C'est vrai que c'est, le, c'est l'animal un peu roi de la chasse à cour.
Oui, la force.
Oui, une certaine force, c'est vrai.
Merci.
Vous connaissez des saints qui ont comme emblème un cerf ?
Saint-Hubert.
Saint-Hubert, et puis. Ouais. Il y en a deux autres, même en fait, on a un autre assez connu. Saint-Hubert, qu'est-ce qui est arrivé?
Il a voulu chasser.
Le Seigneur qui est arrivé, qui est apparu entre les
cornes. Le Seigneur?
Non, il y a une croix.
Voilà, c'est ça. Le Christ en croix, effectivement, oui. Ouais. Qui est apparu, effectivement, entre les rabures d'un cerf. Il y en a un autre qui s'est arrivé.
Pas Gervais ou ça.
Pardon.
Gervais.
Non. Eustache.
Eustache.
Un saint Eustache aussi. Ce qui veut dire que le cerf, il est lié à qu'est-ce qu'il évoque. Donc effectivement, une certaine robustesse, une certaine élégance aussi d'ailleurs. Hein. C'est le roi, vous le disiez, c'est le roi de la chasse à cour. Hein. C'est donc celui qu'on tue dans la chasse à cour. C'est la victime expiatoire. À l'image de qui?
Du Christ.
Du Christ. C'est pour ça que le Christ apparaît dans les ramures du cerf. Donc le cerf est quelque part une sorte de. C'est pas le, mais une sorte d'allégorie christique. Et effectivement, il est le roi de la chasse à cour, comme le Christ a été le roi des victimes pour son engagement. Donc c'est pour ça que le temps a son char tiré par lui, parce que c'est déjà l'annonce de la religion qui va suivre, avec l'éternité. Bon, mais revenons à nos poulets, si j'ose dire. Donc voilà une série, effectivement, de sculptures animalières. Généralement, des animaux plutôt petits. Hein. Il n'y a pas d'éléphant, de cerf, ou de... C'est ça qui m'a fait penser.
Si, il y a un ours.
Il y a un ours. C'est plutôt un ourson, voilà. Hein.
Non, mais c'est quand même...
Ah, ben c'est un ours. C'est un bébé ours. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de girafe, ni de dromadaire, ni de je sais pas quoi. Hein. Donc, c'est plutôt des animaux de relativement petite taille, même si ces animaux sont de grandeur nature, quand même. Hein. C'est donc des pièces qui sont faites en pierre ou en bois ou en céramique. Tout ça est peint ou pas. D'accord ? Et vous disiez que ça vous évoquait l'idée des fables.
C'est expressif.
Vous voulez qu'on les re-regarde un peu ?
Oui. Je n'ai pas vu tout ça.
Mais
si.
Bien. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Non, mais là, c'est un ourson, là ?
Non.
Un coq. Et là ?
Un renard.
Un renard, ok. Un loup et un oiseau.
Une autruche ou un émeu.
C'est vrai que la tête n'entrant pas là, c'est un peu dur de dire. Hein. Bien. Ah oui, mais il y a un animal. Ah oui.
Un serpent?
Non.
C'est encore le renard.
Oui, c'est un renard. Un renard qui tourne autour d'un tronc. Si. Voilà. Ah ben les renards quelquefois. Hein. Donc un renard qui, comme ça, est en train de tourner autour d'un tronc et qui se saisit d'une proie. Hein. Très bien. Super. Des singes chevauchant des boucs, très bien.
Un ourson.
Un ourson. Ah, c'est un ours. Un singe habillé.
Un vieux singe.
Oui, un vieux singe. Effectivement. Donc il y avait... Alors en haut c'est quoi?
Un singe.
Un singe. En bas à gauche. Un chien. En bas au milieu. Oui, chèvre, bouc. Ouais. Et en bas à droite. Voilà. Ça ressemble à un ourson. Peut-être plutôt un dragon. Hein. C'est tout ?
Un dauphin et puis il y a une pieuvre, je ne sais pas quoi sur ça.
Une pieuvre ?
Non, comme des tentacles, des doigts.
Où ça ?
Sur le côté.
Sur son dos ?
Alors pas sur le dos, mais sur le côté, sur le flanc. Sur le flanc, on a l'impression qu'il y a...
Là ? Ça, ça ?
Oui, ça,
oui. Ouais. Ce serait quoi alors? Un dauphin?
Oh non, il est trop d'oiseau.
Oui. C'est un oiseau, mais c'est pas un oiseau.
C'est pas un oiseau?
C'est un mouton.
Un mouton?
Un mouton. Avec un bec comme ça?
Il a des dents. Hein.
Il a des dents.
C'est un truc.
Bon, c'est un animal irréel.
Un animal.
Il a des yeux. Un chien? Un chien,
un loup. Un chien ou un loup.
Ok.
Bien. Alors, qu'est-ce que vous inspire tout ça? Donc, vous avez dit d'abord que ça vous inspirait l'idée de représentation de fables.
Okay.
Vous avez évoqué quoi comme fable, par exemple?
Le renard et
le raisin.
Le
renard et le raisin, oui.
Le corbeau. C'était pas des raisins, c'était des feuilles de chêne.
Oui. Donc ça fait penser à des fables, et puis pas tout à fait, mais un peu quoi.
Ils sont tous suppliants, ces animaux.
Oui,
suppliants.
Ouais.
Expressifs.
Oui, vous avez dit que j'étais pas, que vous avez tous la bouche ouverte. Ouais.
Voilà,
il lève la tête.
Voilà.
Oui. Mais encore. Ils sont tous plus ou moins, enfin pas tous, mais beaucoup sont assis.
Pas tous, pas tous. Ils ont tous la même position.
Alors est-ce que ça vous suggère quelque chose?
Quelque chose. C'est peut-être des animaux qu'on dresse dans les cirques ou des choses comme ça. Ça peut être ça aussi.
Des animaux qu'on dresse dans les cirques.
Alors, comme ils allaient de village en village avec les animaux, les montreurs d'ours.
Donc là, on montrait singes. Plutôt les statues que des vrais animaux.
Non, c'était représentation de ces animaux-là.
D'accord, c'est donc la représentation. Et pourquoi est-ce qu'on représente ces animaux-là?
Parce qu'ils sont sauvages et puis là, ils ont l'air domestiques.
Ils sont le corps de la langue.
Donc c'est des animaux sauvages et là, ils ne sont pas sauvages, donc on peut les représenter.
Ils sont touchés par la grâce.
Touchés par la grâce, c'est qu'ils regardent le ciel.
Je pense un peu à
Saint François d'Assise. Ah oui, Saint François d'Assise qui prêche, ça c'est une idée. Ça.
Oui, mais Saint François, il a beaucoup
de poissons. Ah, aussi aux poissons. Oui, c'est un grand copain des animaux, Saint François.
Il a un loup.
Ouais.
Ou
bio. Donc, ce serait peut-être à mettre en lien avec soit une représentation d'animaux de cirque, etc.,
soit la représentation des animaux sauvages qu'on ne peut pas trop approcher, mais on les approche quand même, puisqu'ils sont statufiés, ou bien une représentation de, d'animaux qui, puisqu'ils regardent tous vers le ciel et la bouche ouverte, sont en train de recevoir la bonne parole de quelques saints personnages.
Non, ils sont frères.
Pardon.
Ils ont plus ou moins l'air de souffrir.
Plus ou moins l'air de souffrir.
Ils ont plutôt l'air de souffrir, de réclamer, d'exprimer leur
en prière.
En prière, extatique.
Oui.
Alors, il y a des choses que je n'avais pas remarquées.
Les caractères humains sont présents.
Ah, sur les caractères humains. Ça, c'est vrai que c'est une idée, parce que l'idée de représenter les caractères humains par des animaux, pourquoi pas, hein. Donc, on aurait des statues qui étaient destinées à quoi, finalement ? À représenter les caractères humains, mais on les mettait au poids ici, là, le long du mur.
Dans un jardin, moi, je vais...
Dans un jardin, des statues jardin, plutôt.
À la place des mains.
Non, on les mettait avec des seins.
Pardon ?
Parfois, on les mettait avec des seins.
Avec des seins.
Ils représentaient des seins, parfois.
Mmh. Les attributs.
Oui,
les
attributs.
Moi, je donne la bouche.
Ce chien, il représente quelle qualité humaine d'après ?
Fidélité. Alors, est-ce que tout ce qui a été dit dit des choses et vous permet de mieux voir de quoi il peut s'agir ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non.
C'est le sacré
ménage.
Ah, une sacrée ménagerie. Pour un sacré lieu. Ah, là est la question. Une sacrée ménagerie pour un sacré lieu.
Ça ne pourrait pas être des statues sur un, dans un cimetière, sur des tombes.
Des statues sur les tombes. Oui, vous avez une idée.
Est-ce qu'elles sont toutes indépendantes ou s'il y a une unité entre elles, voilà.
Alors, quand elles étaient entre elles, je les ai mis sur la même diapo.
Ah,
oui.
C'est un cimetière d'animaux.
Ah, cimetière d'animaux.
Maintenant, c'est 4 ans aujourd'hui.
Oui, hein. Aujourd'hui, on manque d'imagination.
Ah,
oh, c'est le mois de février, il fait sombre.
Non, 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 c'est
bien. C'est bien. Pourtant, ça vient d'un lieu que vous connaissez absolument, ultra célèbre, célébrissime. Donc, vous connaissez absolument tous, le lieu tout seul.
Vous en avez ?
Connaissez tous.
C'est en France ?
Pardon ?
C'est en
France ? Non.
En France ?
Oui.
Ah, c'est peut-être sur un monument, un grand monument, genre pour présenter comme une église ou une cathédrale.
C'est vrai que ce serait idéal avec des éléments provenant d'un grand monument, mais lequel ?
Un Notre-Dame.
Hein ? Notre-Dame ? Un château ? Mais lequel ?
Cheverny,
oui.
Chenonceau. On connaît tous. Versailles, c'est dédié à la chasse.
Pardon ?
Versailles.
Ah !
C'est dédié à la chasse.
Ce serait pas une idée, ça ?
Versailles.
Versailles, jardin.
Ah, les fontaines.
Ah, ça vient quand même.
C'est pour ça que je
vais être. Il a fallu le temps. On y est arrivé. Quand le mot jardin est arrivé, je me suis dit, ça y est, tiens le coup. Ménagerie, je me suis dit, voilà une chance, mais le mot Versailles a été prononcé, et ça y est, je crois pouvoir m'avancer pour dire que vous connaissez tous Versailles.
Oui.
Ben,
oui.
Pas complètement, la preuve. Et bien sachez qu'il y a à Versailles, enfin, qu'il y avait le bosquet du labyrinthe. Bosquet du labyrinthe était un bosquet labyrinthique qui avait été créé à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIe siècle, qui hélas a été démonté à la fin du XVIIIe siècle, mais dont les sculptures existent toujours, je vous les ai montrées, enfin une partie d'entre elles. Ce sont des sculptures en quelle matière, à votre avis ? En bois ?
Non, en pierre.
En plomb.
En plomb. Elles sont en plomb. En plomb peint ou doré. Hein, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, il y a des sculptures dorées ou partiellement dorées et peintes, et puis certains éléments n'étaient pas peints, effectivement, étaient de la couleur du plomb. Hein. Vous avez là une peinture qui montre l'entrée de ce bosquet du labyrinthe, et à gauche et à droite, vous voyez deux figures. C'est qui ces deux figures? À droite, facile. Quand vous le reconnaissez du premier coup, on vient de le voir en plus. Oui, c'est-à-dire Eros. À droite, un personnage ailé, c'est Eros, l'amour, on vient de le voir chez Pétrarque, le revoilà un siècle après, pas de problème. Et à gauche, plus difficile à trouver, mais...
C'est un manteau ou des ailes?
C'est un monsieur avec un manteau, bah, ça arrive que les messieurs aient des manteaux.
Il n'a pas une couronne ou un bandeau?
Non, c'est un monsieur un peu comme ça, qui n'est pas... C'est un monsieur visiblement un peu âgé, un peu voûté. Pardon ? Ésope, absolument. Parce qu'effectivement, et ça vous l'aviez dit dès le départ, hein, ces figures qu'il y a là, ces figures d'animaux, évoquent effectivement des fables. Et quel est le grand fabuliste de l'Antiquité ? Il y en a d'autres, hein, enfin, c'est Ésope. Donc évidemment, vous avez dès l'entrée du bosquet des labyrinthes qui va montrer effectivement des fables, Ésope. Et puis l'amour, parce que, ma foi, l'amour, ça marche toujours. Bien. Voilà à quoi ressemblait en plan le bosquet du labyrinthe. Hein ? Aujourd'hui, il est d'une part fermé et puis détruit, si vous voulez. Encore des éléments archéologiques existent sans doute, et voilà. Mais il était là, dans le jardin. Vous voyez ici, hein, vous reconnaissez, alors Versailles est là, voilà le château, voilà la cour de marbre. Hein. Et donc là, voilà, le bassin de l'Atoll, le grand canal, le bassin de l'Apollon. C'est donc là le bosquet du labyrinthe. Hein. Et là, vous voyez, en gros, à quoi il ressemblait. Vraiment un labyrinthe. Hein. Et il y avait dans le bosquet du labyrinthe quantité de fontaines. Il y en avait une quarantaine qui chacun représentait une fable d'Ésope. Ça a été démoli à la fin du XVIIIe siècle, autour de 1775. Les sculptures ont été remisées, mais elles ont été remises. Enfin bref, on n'a pas arrêté de les bouger. Ce qui fait que certaines sont perdues, certaines se sont cassées. Hein, donc vous avez vu, en plus de texte, etc. D'autres ont complètement disparu. Ce qui fait que ce que je vous ai montré, c'est... Pas tout à fait, mais la quasi-totalité de ce qu'il y a aujourd'hui, des quelques 40 petits bassins qu'il y avait là qui représentaient les fables. Alors maintenant, je vais vous remontrer les animaux avec des gravures faites au XVIIe siècle qui représentaient les bassins complets. Ah. Ok, ouais. Ça, vous allez voir comment ça s'organise.
Elles étaient toutes en plomb aussi.
Pardon ?
Elles étaient toutes en plomb.
Ah, tout en plomb, oui. Voilà, là vous avez, elles existent encore. Les statues représentant l'amour et Ésope, qui étaient donc à l'entrée. Et à droite, vous avez la gravure. Alors, dans la mature que je vous ai montrée avant, l'entrée est un peu édulcorée, on va dire. Hein. Ça, c'est la gravure qui représente vraiment l'entrée du bosquet, avec, en fait, qui était vraiment une porte beaucoup plus courte, avec une grille. Et donc, montrant d'un côté, cette fois c'est à droite et à gauche, Ésope et l'amour. Voilà, vous reconnaissez votre coq. Le coq faisait partie de la fable « Les coqs et la perdrix ». Et vous voyez à droite le bassin quand il était complet. Ah, ok,
oui, oui.
Le renard que je vous ai passé tout à l'heure appartenait à un bassin figurant la fable « Les coqs et le renard » que vous voyez à droite. Ah, vous retrouvez bien le renard. Le fameux loup que vous avez vu tout à l'heure et la grue, c'est la fable « Le loup et la grue » qui est un petit peu, vous savez, la fable « Le renard à la cigogne » chez La Fontaine.
Oui, oui, voilà.
Donc vous voyez les statues existantes et le bosquet tel qu'il existait. D'accord ? Là, difficile à voir, mais vous l'aviez bien vu, l'aigle et le renard. Ça raconte l'histoire d'un aigle qui va, d'un renard, pardon, qui va à la fois manger l'aigle, mais également manger ses petits. À l'origine, alors toute la partie basse est encore conservée, à l'origine, les petits étaient autour de la vasque, dans laquelle il y avait un jet d'eau. Hein. Aujourd'hui, il reste la vasque, le renard qui est en train de bouffer l'aigle, mais vous n'avez plus les petits aiglons au-dessus. D'accord ? Alors, il y a certains bosquets, je ne vous ai pas tout montré, hein, mais voilà un autre bosquet qui s'appelle la fable, la fable s'appelle les pans et le jet. Ça représentait plein de pans et des pannes autour d'un jet, en train de ridiculiser le jet, parce que le jet, évidemment, il n'est pas terrible, hein, alors que le pan et les pannes, c'est super, hein, enfin surtout le pan. Hein. Donc il reste la roue du pan et une des pannes. Hein, et vous voyez le bassin à droite. C'est extraordinaire, non ? Et c'est pas fini, hein. Ah ben ça va être incroyable. Et c'est inconnu. Personne ne connaît ça. C'est stupéfiant. Et c'est pas dans un fin fond de province. C'est à Versailles, le château le plus célèbre du monde. C'est fou, hein. Alors là, c'est le bassin qui représente le coq, le coq d'un, c'est le dindon. Hein. Voilà. Et donc à gauche, vous voyez le dindon. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, parce que je n'ai pas tout montré, mais voilà. Alors le pan, encore, hein, il y a plein de pans dans le bosquet. C'est pour illustrer la fable Le pan et la pie. Hein. Là, c'est un bosquet avec la fable Le singe et ses petits. Donc il y avait au-dessus de la vase qui existe toujours, un singe avec un petit, et les trois autres petits étaient en dessous. C'est ce que vous voyez là. Hein. Là, alors c'est un bosquet un peu compliqué, qui est le bosquet qui s'appelle Le combat des animaux. Il y avait en fait au fond de cette allée le combat des animaux, mais de chaque côté, avant le combat des animaux, de droite à gauche, il y avait deux boucs chevauchés par des singes. C'est ce que vous voyez là. D'accord ? Et le bosquet lui-même, que vous voyez au fond, qui s'appelle le combat des animaux, le voilà. Ça représentait toute une série d'animaux, dont un ourson, en train d'essayer de monter et de combattre, et puis de monter et d'essayer de choper l'animal qui était au-dessus. Il y a un autre bosquet avec encore un pan, c'est le pan et le rossignol. Vous voyez à nouveau un très beau pan qui est conservé, pas le rossignol par contre. Et ce vieux singe à qui on apprend à faire la grimace, hein, qui est habillé, était dans le bosquet le perroquet et le singe. Ça, c'est un bosquet très intéressant qui s'appelle le singe roi, où il y avait donc un singe au milieu et tout autour, plein d'animaux, dont le singe était le roi. Il reste encore un chien, un ours et le bouc, et puis le singe lui-même. Hein. Ça, alors là, j'avoue qu'il faut le savoir, ça représente un rat. Ouais, moi, je vois pas les rats comme ça, mais bon, c'est bel et bien ça. Mais vous savez, ces sculptures sont pas toujours super réalistes non plus. Hein. Voilà. Et c'est une femme qui s'appelle le Conseil des rats. Hein. Donc, il y avait plein de rats, puis un gros rat au milieu. Voilà. Ça, c'est le renard et les raisins, vous l'aviez bien vu dès le départ. Hein. Donc, il y a en fait plusieurs renards, hein, parce qu'on va pas mettre qu'un renard. Un peu chiche. Là, je ne voulais pas montrer ce que c'est un bosquet un peu abîmé. C'est le loup et les porcs, et le porc épique. Il y a en fait quatre loups et un porc épique. Il reste quatre loups, dont celui-là qui est très beau, je trouve, enfin très fragmentaire. Ça, c'est la fable Serpent à plusieurs têtes. En fait, c'est un serpent à plusieurs têtes, vous voyez, en bas dans le bassin. Mais au-dessus, il y a un dragon qui est celui qui existe encore. Hein, vous l'aviez bien vu tout à l'heure. Et là, il y a un bosquet qui représente le dauphin et le singe. En fait, ce que vous avez bien vu tout à l'heure, c'est les pieds du singe. Le singe était sur le dauphin, si vous voulez. Hein? Mais il ne reste plus le singe, il ne reste plus qu'une partie du corps du dauphin. Hein? Et puis là, je ne vous l'avais pas montré, mais c'est un bosquet qui appelle le cygne et la grue. Il reste la grue et le cygne, même si leurs têtes ont disparu, c'était fragile, hein? Et là, en fait, le dernier bosquet représente le loup et la tête. C'est un loup qui trouve une tête de statue, qui se demande ce que c'est. Alors, il reste le loup, mais plus la tête. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça, parce que je trouve que c'est un ensemble extraordinaire. Moi, je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. C'est splendide, c'est inconnu, et c'était à Versailles. Une fois, le plus important château du monde. Hein. Ça représente les femmes des hommes qui ont été prises par La Fontaine. C'est donc hyper 17e siècle, et c'est quasi inconnu. Parce que ces sculptures, elles sont exposées à Versailles, hein, mais pas depuis très très longtemps. Puis vous savez, ça, on va tous à la Galerie des Glaces, on ne voit rien du reste. Hein, et finalement, on passe à côté plein de trucs. Et ça, c'est extraordinaire. Vraiment, le bosquet, ce bosquet de Versailles, c'est un truc incroyable. Quoi. Et vous voyez, entièrement dédié aux animaux, quand même. Hein. C'est fou. Hein. Et c'est et par les plus grands sculpteurs du temps, quand même. Hein. Le Hongre, Tubi, etc. Mais passons au XVIIIe siècle sur un autre cycle animalier que vous allez m'analyser. Je vous montre. Oui, je précise que c'est dur, ça. Mignonne, non ?
C'est plus exotique.
On repart en arrière ? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous inspire cet ensemble de...
Plus
exotique. Est-ce qu'il n'y a que des animaux exotiques?
Non.
Mais il y en a beaucoup. Il y a effectivement beaucoup d'animaux exotiques, et puis il y a des animaux qui ne le sont pas, mais effectivement c'est plus exotique. Bien.
La plupart sont vivants, mais il y en a certains qui sont...
Il y a des animaux vivants et des animaux morts. Nature morte avec animaux, autrement dit, oui. Vous avez oublié un détail, c'est de dire quel type d'œuf c'était.
Vous
voyez comment ces peintures... Pardon ? Grande. C'est des grands tableaux. Très grands.
Le thème, c'est la chasse.
Alors, il y a beaucoup de choses autour de la chasse, effectivement.
Ou la découverte.
Ou la découverte. Il y a évidemment des airs autour du thème de la chasse. On a vu des natures mortes, hein, de gibier, en fait. Hein. Ou effectivement la découverte de lieux exotiques. Voilà, c'est dès le départ.
C'est des portraits.
On peut se poser la question, est-ce que dans certains cas, ce n'est pas des portraits d'animaux, effectivement.
Oui, parce que c'était l'époque où on allait visiter, essayer de pénétrer l'Afrique, une zone très...
Oui, donc c'est effectivement des moments où on va pénétrer des lieux et donc où on vient observer des animaux. Est-ce que c'est la seule solution, d'ailleurs?
Il y avait des ménageries.
Il y avait des ménageries, et notamment où?
À Versailles.
Eh bien, voilà, on retombe sur Versailles. À Versailles, il y avait une sacrée ménagerie. Donc, quelquefois, on allait voir les animaux, mais c'était encore plus simple, surtout quand on s'appelle le roi de France et qu'on a quelques moyens, de faire venir des animaux. D'ailleurs, souvent, on vous en donne.
Oui.
Les animaux sont un cadeau tout à fait... voilà. Et il y avait, évidemment, à Versailles, une ménagerie, hein, alors qui n'existe plus trop, il y a encore quelques éléments, mais voilà, une ménagerie. Hein, avec une sorte de belvédère qui permettait de voir les animaux, hein, d'aller les voir, et il s'est mélangé avec des animaux tout à fait extraordinaires. Hein. Alors, je vois que ça vous inspire, tout ça. Ces tableaux, vous les connaissez?
Non.
Je ne connaissais pas. Je crois pas. On a l'impression qu'ils sont presque tous de la même main.
Hein, ça, c'est vrai. On a vraiment raison qu'ils sont tous de la même main. Alors, cette main, ce serait qui?
L'un des trois.
Alors, c'est qui les trois?
Des
portes.
Le troisième m'échappe.
C'est déjà pas mal, remarqué.
Non, mais c'était pas mal.
Alors, si on pense à Oudry ou si on pense à des portes, vous les voyez plutôt de des portes ou de Oudry, ces tableaux?
Je sais pas. Des portes.
Plutôt des portes?
Oui.
Ouais.
Non,
des tapisseries.
Alors, Oudry, vous avez raison, il a été même le directeur de la manufacture d'Elsie de Beauvais. D'ailleurs, il est mort à Beauvais. Vous savez que le nom d'Oudry est très très lié à l'action de la tapisserie. Donc, vous verriez plutôt des portes. Je ne veux pas vous influencer. Hein.
C'était le troisième.
Pardon?
C'était le troisième.
Ah.
Non.
Alors, lequel? Oh bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est l'idée, en fait, que c'est effectivement des œuvres d'une seule main. Vous avez dit beaucoup de choses. Hein. Vous avez écrit des grands tableaux qui représentaient soit des animaux locaux ou exotiques, des animaux qui évoquaient soit l'idée de la chasse ou de la découverte de pays étrangers, des animaux qu'on a pu peut-être observer sur place, mais sur place dans leur pays, ou plutôt sur place dans une dame ménagerie, pourquoi pas celle de Versailles, qui regorgeait d'animaux exotiques acquis par le roi ou acquis que l'on a donné au roi, voilà. Et des animaux, enfin des peintures réalisées par une seule et même main. Vous avez cité Oudry et des portes. Ok. Et donc, ces œuvres, est-ce que vous les connaissez pas? Elles seraient où?
À Versailles.
Encore des choses qu'on ne voit pas à Versailles.
Ça marche pas tous les
coups. Les temps d'y retourner.
Il y a certains musées de la chasse.
À Paris, il y a un musée de la chasse et de la nature.
Oui.
Où il y a des portes et de l'Oudry.
Oui. Ça va être aussi au Muséum d'histoire naturelle.
Au Muséum d'histoire naturelle.
Parce que les animaux, ils pour montrer.
Oui, il y a le côté, c'est vrai que ça fait, ça m'était dit d'ailleurs, il y a le côté portrait, un peu histoire naturelle. Hein. Donc effectivement, il y a des choses qui vont penser à qui d'ailleurs?
Buffon.
Hein. Il y a des choses qui vont penser à des planches de Buffon. Ce que les planches du Buffon, c'est des gravures, hein, dans son histoire naturelle, alors que là, c'est de la peinture en grand format. Donc, évidemment, ça fait beaucoup penser à Buffon. Hein. Ce côté portrait que vous signaliez tout à l'heure. En fait, je veux vous dire que si vous ne les connaissez pas, c'est normal. Parce que ce n'est pas à Versailles. Ce n'est pas non plus aux histoires naturelles à Paris.
C'est où ? C'est où ?
C'est où ? Pardon ?
Au Louvre ?
Non plus.
Dans un château, Fontainebleau ?
Dans un château, mais pas en France.
Ah, en France ?
Eh ben voilà.
En Allemagne ?
En Allemagne. Absolument. Vous avez une idée ?
Sans souci.
Ah, ça pourrait. À Sans Souci, il y a une collection extraordinaire de peinture française, hein, parce que les souverains allemands, notamment Frédéric II, ont adoré la peinture française. Et à Sans Souci, une galerie de peinture française formidable. Hein. Extraordinaire. Donc c'est en Allemagne, mais c'est un peu une autre histoire. Alors, on regarde en vitesse quand même les animaux avant qu'on voit de quoi il s'agit. Alors là, c'est quoi ? Un loup qui est pris au piège. On passe que je trouve que c'est dur à regarder. Là, une sorte de pintade. Un serpentaire. Pourquoi pas ?
Une
hyène attaquée par des chiens. C'est beau, hein ? Une gazelle ? Pardon ? Une antilope, une gazelle, cob ? Antilope ? Un mouflon ? Panthère, guépard ? Pardon ? Panthère ? Léopard.
Panthère.
Casoar. Une grue.
Une
grue. Voilà une de ces natures mortes dont on parlait. Hein. Un toucan au centre. Une grue couronnée à droite. Un genre de grue.
Ouais.
Un chien.
Un faisan.
Deux oiseaux.
Ouais. Ah oui, il y en a un grand. Hein. On verra. Un rhino, ça va.
Un lion.
Et un lion. Bien. Bon, bah, ça va. Hein. Alors. Ce qui fait que ces tableaux vont ensemble, vous l'avez bien vu, hein, c'est des tableaux donc tous d'assez grandes dimensions, tous de la même main, qui se trouvent tous dans un château en Allemagne, parce que vous trouvez qu'au XVIIIe siècle, un prince allemand a été tellement fasciné par un artiste français qui s'appelle Oudry, donc pas des portes, mais Oudry, qui lui a commandé des quantités de peinture. Ce prince allemand, le voilà. C'est le prince héritier Frédéric de Mecklembourg-Schwerin, le voilà, hein, peint par Oudry lui-même. Et en fait, un jour qu'il vient en France, à Versailles, il voit Oudry. Il est tellement fasciné par ce qu'Oudry fait qu'il lui achète des œuvres, il lui en commande, il lui en réachète. À la vente de l'atelier de Oudry, après sa mort, il en a réacheté encore. Ben, vous avez en Allemagne au château de Schwerin, qui est donc un musée national allemand, une collection extraordinaire d'œuvres de Oudry acquises par ce monsieur-là. Donc toutes ces œuvres en font partie, si vous voulez. Et c'est des œuvres qui avaient été peintes par Oudry, soit à la demande de Frédéric, soit peintes par Oudry parce que, bah, voilà, il avait peint ses œuvres, notamment à Versailles, en voyant les animaux à la ménagerie. Hein. Le rhinocéros ou le casoar faisait partie de la ménagerie, si vous voulez. Hein. Et puis, quelquefois, c'est des œuvres qu'Oudry a peintes pour le roi de France, pour la ménagerie elle-même, parce que la ménagerie, c'était aussi un bâtiment où on allait pour voir les animaux, mais où il y avait des peintures avec des animaux. Ou bien alors d'autres lieux, par exemple le jardin botanique de Paris, qui était un jardin du roi, là où il y a aujourd'hui le Muséum d'histoire naturelle, hein, le roi avait aussi commandé des tableaux là. Hein. D'autres bâtiments également, notamment à Versailles, pouvaient recevoir des peintures. Le problème, c'est que le roi avait la commande facile, mais pas toujours le paiement facile. Donc, quelquefois, si vous voulez, Frédéric de Mecklembourg-Schwerin payait plus rapidement parfois que le roi de France. Quoi. Donc, plutôt que de faire une peinture pour le roi qui n'allait jamais être payé, sinon, 10 ans après, quelquefois, Oudry vendait les peintures qu'il faisait, même si le roi lui avait commandé. Hein. Donc, un certain nombre des œuvres que vous avez là, c'est ça, c'est soit des commandes du personnage, soit des œuvres faites par Oudry pour lui-même, si j'ose dire, enfin, dans son programme, soit des commandes royales, mais non honorées, et qui finalement sont vendues à Frédéric de Mecklembourg-Schwerin. Donc vous avez bien vu, hein, y a ce loup pris au piège, il y a l'outarde, alors c'est une outarde et une poule de Guinée. Hein. Bon, ça c'est pas évident. Voilà. Donc évidemment, vous avez bien vu le côté exotique. Hein, voilà. Ça c'est une hyène attaquée par deux chiens, vous avez raison. Une antilope indienne, vous savez que c'est cornes torsadées très spéciales. Hein. Un mouflon, vous aviez bien vu. En fait, c'est un léopard et une léoparde. C'est trop mignon, hein. Un casoar. Une grue morte. Là, vous avez ce qu'on appelle une grue demoiselle. Hein. Moi, je... Bon, voilà. Un toucan et une grue couronnée, vous l'aviez bien vu. Ça, c'est un butor et des perdrix avec un chien, donc. Alors ça, c'est assez amusant. Parce que vous voyez que ce tableau est au musée du Louvre. Or, c'est un tableau de Oudry qui avait été acquis par le prince Frédéric, etc. Mais au moment de l'arrivée des troupes napoléoniennes en Allemagne, ce tableau a été prélevé par Vivant Denon, que nous connaissons, dans la galerie du prince de Schwerin, emmené au Louvre. Et après la défaite de Napoléon, la plupart des œuvres piquées par Napoléon droite à gauche ont été rendues, hein, mais pas celle-là. Tout l'Allemagne a fait quelques petits misères à la France après, et voilà, la chose est passée comme une lettre à poste, si je veux dire. C'est-à-dire que ce tableau qui faisait partie de la galerie de Schwerin est finalement resté à Paris. Voilà. Ça, c'est le rhinocéros. Tout ça est grandeur en nature. Hein. Donc, vous voyez, le rhinocéros, c'est un tableau qui fait 3 mètres de long. Hein. Et le lion, qui n'est pas le plus réussi, je trouve.
Non.
Il a une tête pas du tout léonine, je trouve. Donc vous voyez, c'est un ensemble assez extraordinaire. Hein. Il y a une quarantaine de tableaux de Oudry, là je vous en ai passé une douzaine, voilà, qui font une espèce de galerie de peinture. C'est le plus gros ensemble de tableaux de Oudry hors de France. C'est vraiment étonnant. Pour terminer, c'est presque l'heure déjà, je vais vous montrer, pour illustrer le 19e siècle, quatre autres œuvres, alors que vous connaissez certainement. Et donc, vous allez me commenter ça, presto. Hein. Alors, effectivement, quatre statues au musée d'Orsay.
Oui, devant.
Devant le musée d'Orsay.
Devant l'entrée.
Non, j'en ai compté 3 dans les
deux. Oui, la ligne, mais il n'y est pas.
Alors là, je vous en montre 4. Alors, vous avez raison, hein, c'est celui devant le musée d'Orsay. Alors, vous voyez derrière. Tiens, c'est quoi le musée qu'il y a devant le musée d'Orsay ?
La Légion d'honneur.
Musée de la Légion d'honneur. Hein. Ce que vous voyez là, c'est le musée de la Légion d'honneur qui est derrière, hein, qui est donc devant le musée d'Orsay. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça représente
un éléphant.
Avec un gibon, effectivement, je crois que c'est un gibon. Hein. Il est attaché. Hein. Il est attaché, là, il y a un singe. Hein. Voilà. Bien. Là, donc, on a un rhino, décidément, ce soir, on voit. Hein. Voilà. Avec une verse.
Celui-là,
il n'est pas. Alors, pourquoi je vous montre ?
C'est le même sculpteur.
Alors, ça pourrait. Donc, vous verriez la même main dans les 4 sculptures ?
Non.
Non. En fait, c'est 4 sculptures différentes. Des sculptures de quelle époque ? 19e. Le musée d'Orsay.
La queue est bizarre.
La queue est bizarre.
Celui-là, cette partie des 4.
Alors, voilà, celui-là fait partie des 4 et il a disparu, en tout cas, il n'est plus avec les trois autres. Ses œuvres ont toujours été devant le musée d'Orsay.
Elles
viennent d'où ? C'est une gare.
Elles ont été faites pour l'exposition internationale.
Absolument. Elles ont été faites pour l'exposition internationale. Laquelle on a eu tellement ?
Celle de 1860.
Ouais, 1878, facilement. Il y a bien un autre. L'exposition de 1878, qu'est-ce qu'il y a comme. Parmi les bâtiments de cette exposition, qu'est-ce qu'il y a ?
La gare d'Orsay.
Alors, la gare peut-être. Je la verrai un peu plus tardive, mais je me trompe peut-être.
Le Trocadéro.
Le Trocadéro. Ce qu'on appelle le palais du Trocadéro. Alors, ancienne version. Hein.
Oui, c'est
parce que là, vous avez la version récente des années 20-30. Hein. Mais il y avait une ancienne version du palais du Trocadéro. Hein. Effectivement, ces sculptures étaient faites pour décorer le palais lui-même. Voilà, il y avait des jardins qui avaient dehors. Précédemment, ils étaient autour d'un bassin devant le palais du Trocadéro. Mais le palais du Trocadéro, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pardon ? Alors, je crois qu'il y a peut-être des problèmes d'incendie, et puis. Oui, il a été détruit. Parce que c'était quand même un de ces palais fait pour l'exposition universelle. Hein. Souvent, c'était vite fait.
Éphémère.
Alors, c'était l'éphémère qui durait quand même, mais qui n'était pas trop fait pour durer. Donc, le palais de Trocadéro a été entièrement détruit. Puis après, on a reconstruit un qui est celui que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça, c'était évidemment des sculptures qui étaient faites en 1878 pour orner un bassin devant le palais de Trocadéro. Vous avez une idée des sculpteurs, peut-être ? Non ? Des sculpteurs assez animaliers ? Et alors, quand on a... Qu'est-ce qui fait que cette sculpture-là, aujourd'hui, n'est pas dans le musée d'Orsay ? Vous avez une idée ?
Elle aurait été achetée par quelqu'un d'autre.
Ah, c'est une bonne idée, ça. Parce que qu'est-ce qu'on a fait de cette sculpture quand on a démoli le palais ?
On les a vendus.
On les a vendus ?
Non,
on les a préservés. Il y en a une, par exemple, qu'on a envoyée à Saint-Cloud. Il y en a une autre qu'on a mis, je ne sais pas où, à Paris. Enfin, voilà. Celle-là, on l'a mis où ?
Elle a été fondue par
les Allemands. Non, elle n'a pas été fondue par les Allemands. Et pas les trois autres non plus. D'ailleurs, on dit par les Allemands, mais c'était généralement par les Français qu'ils ont donné aux Allemands. Soit ils ont envoyé dans des lieux où ça pouvait avoir un sens, vous voyez.
Les abattoirs.
Alors, devant un abattoir, oui, mais c'est peut-être pas un lieu où on va avoir des statues. Celui-là, ce taureau-là, on l'a envoyé dans un lieu. Pardon.
Oui, une arête.
Alors, près d'une arête, une arène.
À
Nîmes. À Nîmes. Lui, on l'a envoyé à Nîmes. Mais quand il y a quelques années, enfin, il y a déjà quelques décennies, on a créé le musée d'Orsay et qu'on a mis devant le musée d'Orsay des statues en question, qui étaient évidemment très représentatives de ces grandes expos qu'on faisait au 19e à Paris, etc. On a donc remis des statues qui étaient à droite et à gauche, mais les Nîmois qui avaient leur tour, ils n'ont pas voulu le. Donc il est toujours à Nîmes.
Oui.
Alors, on vous dit ça parce qu'elle est à Nîmes.
Hein. Les autres, elles sont bien lustrées.
Oui, elles sont très lustrées. Alors voilà une vue du palais Trocadéro, hein, l'ancien. Hein. Donc, vous voyez une architecture un peu fla-fla, comme ça. Et vous voyez nos statues. Voilà le taureau, voilà le rhinocéros. Là, vous avez l'éléphant, je crois. Et là, où l'éléphant est là. L'éléphant est là, et là, le cheval. Voilà. Pourquoi ces quatre animaux-là, d'ailleurs ?
Peut-être les continents.
Voilà, c'est un peu l'idée des continents, parce que l'éléphant, c'est évidemment plutôt quand même de l'Afrique. L'éléphant d'Asie, bah, l'Asie. Le cheval, bah, c'est peut-être plutôt l'Amérique, et le taureau, plutôt l'Europe, vous voyez. Bah. Alors, c'est un peu ça, mais pas seulement, parce que vous voyez que là, il y a aussi des statues. Et en fait, il y a ici six statues. Et ces statues, elles se trouvent aujourd'hui aussi devant le musée d'Orsay. Vous savez, quand vous allez devant le musée d'Orsay, il y a les trois statues en question. Mais dans le fond de la place, vous attendez, vous faites la queue pour rentrer. Il y a six statues. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne les voyez pas? Bon, il faut que vous retourniez. Et à Versailles, vous voulez lancer. Parce que sur le parvis, donc, vous avez ces trois statues-là dont on parle, hein, mais dans le fond, c'est une place, vous avez six femmes assises sur la gauche, c'est des femmes, qui représentent les six continents. L'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, et puis alors on a fait l'Amérique en deux, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ça fait six. Donc si vous voulez, vous avez là les continents, plutôt six que cinq, c'est un peu bizarre. Et puis il y a un peu une redite à travers ces quatre animaux-là. Quoi. Alors, ces quatre animaux, ils sont dus pour l'éléphant à Frémiet. Frémiet, vous connaissez, c'est le beau-frère de Rude. Hein? Madame Rude est une fille Frémiet, quand même. Hein? Bon. Jacquemart, le rhinocéros. Bon. Rouillard pour le cheval. Et le taureau, c'est Quint. Et donc, c'est Avenue Jean Jaurès à Nîmes. Quint, c'est un, avec Barry, c'est un des grands sculpteurs animaliers en France au 19e. Quint. Vous avez vu au jardin des Tuileries une œuvre de Quint, etc. Voilà. Et ben voilà, on aura fait notre petit tour à travers trois cycles dans lesquels, évidemment, les animaux ont une présence très grande. L'intérêt, je crois, que ça avait, c'était, si vous voulez, de montrer comment l'animal peut être un sujet en soi. Peut créer des cycles artistiques monumentaux, pas toujours très connus, on l'a vu, hein, et qui ont un sens. Hein, et c'était évidemment une manière d'aborder cette question animalière, c'est-à-dire qu'elle voit des choses extraordinaires. Enfin, je trouve le bosquet du labyrinthe un truc incroyable, magnifique, et encore une fois, inconnu, mais il y a tellement de choses inconnues. Voilà. Et je trouvais que ça valait la peine qu'on travaille dans le show.
Merci.
Voilà. Merci. Et bien, d'abord, je vous Oh.